que la paix, le shalom, la paix de Dieu repose sur vous et remplisse vos cœurs ce matin. Que l'amour, la joie, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous anime et nous accompagne chaque jour de notre vie. Que la communion du Saint-Esprit nous unisse à notre Père Céleste, à notre Sauveur Jésus-Christ, nous unisse les uns les autres et avec tous nos frères et sœurs de par le monde qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. C'est ma salutation ce matin pour vous. Dans notre Église, nous avons des nouveaux-nés. Il y a des nouveaux-nés à venir dans peu de temps, 2 semaines, 3 semaines. Dès sa naissance, le nouveau-né vous voit les mamans, et ils sentent l'odeur du papa et de la maman. Sa vision est encore floue au départ. Elle est incomplète, bien sûr, puisqu'elle est floue. Mais afin de pallier à cette vision encore floue, il écoute attentivement ce qui se passe autour de lui. Il commence à voir, il écoute. Il reconnaît les voix de ses parents, bien sûr, tout d'abord, puis de ses frères et de ses sœurs. Parce que déjà à l'intérieur, il connaissait la voix, il entendait la voix de la maman, la voix du papa. Il connaissait votre présence, celle du papa, et il est particulièrement sensible à ce que vous lui racontez et à vos caresses, n'est-ce pas, Catherine? Quand tu caresses ton bébé, n'est-ce pas, il est sensible à tes caresses, il entend ta voix. C'est avec vous qu'il va s'éveiller au monde. Dès la 3e semaine, il explore son environnement, porte une grande attention à tout ce qui bouge, et aux couleurs vives surtout. Sa vue n'est pas encore maximale, ce qui va l'attirer, ce sont principalement les couleurs vives et les contrastes de couleurs. Donc assez vite, il va être éveillé à tout cela. Un nouveau-né, pendant le premier mois, apprécie en général, dit-on, la musique classique, mais déteste les sons trop forts ou agressifs. Alors là, ça le repousse. Pourquoi je prends l'histoire du bébé ou du nouveau-né? Eh bien, c'est parce que dans la Bible, nous sommes comparés, surtout quand on débute dans la foi, avec la foi des nouveau-nés. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. C'est surtout 1 Pierre au chapitre 2, au verset 2, qui fait cette comparaison. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Oui Père, nous te bénissons ce matin encore, nous te disons merci, parce que tu nous places devant ta parole et tu veux nous communiquer quelque chose ce matin, eh bien, te demandons Seigneur, ta grâce, Seigneur. Aide-moi à être le porte-parole de ta voix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les richesses de ta parole. Merci pour ce que tu veux nous transmettre chaque fois, chaque dimanche matin et chaque jour de notre vie. Tu veux nous communiquer, tu veux parler à nos cœurs et fais-nous du bien encore ce matin. Bénis ta parole, Seigneur. Sanctifie-la dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un terme... Vous voyez ici, dans cette Bible, il est dit ainsi comme des enfants désirés. Simplement le mot désiré. Là, je ne sais pas quelle traduction il est dit. Désiré aussi, désiré. Alors que dans d'autres traductions, cela est traduit par soyez avide. Donc, désiré, c'est bien, on peut désirer, comme Francisco nous le disait, ouais, désirer quelque chose moins cher, mais on peut désirer. Tandis que là, vis-à-vis de ce lait, de la parole, c'est soyez avide. Soyez avide ou ayez un ardent désir, pas simplement un petit désir, mais un ardent désir. Ou désirez vivement, ardemment, avec ardeur. Ou il y a une autre version qui va dire recherchez, aspirer à ce les spirituels. Est-ce que la question alors c'est est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est nous aspirons? Est-ce que nous sommes avides de sa parole, de nous nourrir de sa parole comme un nouveau-né est avide du lait de sa maman? Catherine en saura bientôt quelque chose. Catherine en saura bientôt quelque chose. Ceux qui sont déjà mamans, qui ont des nouveau-nés, et les autres qui ont grandi, ils savent, n'est-ce pas, par expérience, combien les nouveau-nés sont avides du lait de leur maman. Alors nous aussi, soyons avides, comme, nous, comme les bébés, comme les nouveau-nés de ce lait. Alors ici, il est parlé du lait spirituel et pur. Dans d'autres versions, il est traduit par le lait authentique. Le lait l'authentique, pur, sans mélange. Parce que tout ce qui sort de la parole de ce livre, de la Bible, eh bien, il y a déjà un mélange, il y a déjà une connotation humaine, même s'il y a des livres qui sont écrits par des chrétiens, par des pasteurs, par des théologiens, sont bénéfiques, nous font du bien. Mais il y a déjà un peu de l'homme. Tandis que là, c'est du lait authentique, sans mélange, qui est pur, non dénaturé ou non frelaté. Voilà, il est tel quel, tel que Dieu nous l'a donné. Bien sûr, les traductions peuvent modifier, mais pas le sens véritable et profond de la parole. Et il nous s'est dit, pourquoi nous devons être avides? Eh bien, parce que, au verset 3, puisque vous avez goûté ou vous avez constaté combien le Seigneur est bon, dans notre traduction, combien il est doux, combien il est excellent, combien il est bienfaisant. Oui, notre Seigneur est bon, il est doux, il est excellent, il est bienfaisant. C'est pourquoi aspirez, c'est pourquoi soyez avides, ayez un ardent désir de vous nourrir de cette parole. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 15 et au verset 16, Jérémie va dire « Tes paroles se sont présentées à moi j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Soyez avides, ayez un ardent désir, dévorons la parole de Dieu. Voilà. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Est-ce que nous avons de la joie lorsque nous lisons la parole? Est-ce que nous sommes enthousiasmés? Est-ce que nous sommes excités en quelque sorte par la parole de Dieu? Ça, la parole de Dieu doit nous toucher, doit saisir nos entrailles. Nous devons avoir une joie en lisant sa parole. Elle a fait mon plaisir et les délices de mon cœur. Elle a fait mon plaisir et les délices de mon cœur. Comme on peut s'imaginer, le lait, quand le nouveau-né boit le lait aux têtes, suce le lait de sa maman, il en fait ses délices, n'est-ce pas? Il se réjouit. Il a un plaisir à se nourrir du lait de sa maman. Bien, et là, il dit pourquoi? Car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu de l'univers. J'ai dévoré, je les ai dévorés. Tes paroles, je les ai dévorées. Oui, sa parole est droite, elle est parfaite, elle est véritable. Ce lait dont on a parlé tout à l'heure, il se trouve donc dans la parole. Nous devons désirer le boire avec la même intensité que le nouveau-né réclame le lait de sa maman. Ce désir, cet amour profond pour sa parole va nous faire croître dans la connaissance et dans la grâce de Christ, dans la connaissance de Dieu et dans la grâce de Christ. Si nous survolons la parole, si nous glissons sur sa parole, elle n'aura aucune efficacité, elle ne fera rien dans notre vie, elle ne fera rien dans notre être intérieur. Mais si nous la méditons, si nous la lisons encore, et si nous avons surtout cette avidité, cet ardent désir de connaître Dieu, alors nous le connaîtrons. Parce que la Bible nous parle de Dieu. La Bible nous dit qui est Dieu. Qui est Dieu en réalité, dans sa gloire, dans sa puissance, dans son autorité, dans sa majesté, et qui il est pour moi. sais ce que Dieu est pour moi, la Bible me le dit. Mais si je ferme ce livre, je ne pourrai pas connaître. Oui, j'aurai une vague connaissance de Dieu. Mais si je veux connaître Dieu en profondeur, alors il faut avoir cette avidité, il faut avoir ce désir intense de nous nourrir de sa parole et pas simplement 5 minutes. L'écoute, la méditation de sa parole devrait réjouir notre cœur. Sa parole est une nourriture. Si vous ne mangez pas, si vous ne mangez pas ma chair, on mange la chair. C'est difficile à comprendre quand Jésus nous dit, Jean, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Mais quand on mange sa chair, quand nous nous nourrissons de sa parole. Sa parole nous nourrit, nous fait parvenir au salut, ça c'est 1 Pierre 2,2 aussi, selon les traductions, nous mène à la plénitude. Donc elle restaure notre vie, notre âme, elle redonne vie à notre âme. Parce que sans la parole, s'il n'y a pas la parole de Dieu dans le cœur d'un homme, cet homme est mort. Il n'y a que la parole de Dieu, avec foi, joint à la prière, qui va donner la vie à cette âme. Qui va donner la vie, oui, à cette âme de l'homme ou de la femme dans le monde. Pourquoi le psaume premier commence-t-il par « Heureux l'homme » ? Si nous voulons être heureux, si nous voulons connaître le bonheur, le vrai bonheur, alors, qu'est-ce qu'il nous est dit au psaume 1 ? Il nous est dit que, bien, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il y en a un peu plus loin dans d'autres psaumes, je ne citerai pas tous les psaumes, mais il dit il trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Et le psalmiste va dire dans un autre, je veux la méditer jour et nuit. C'est un engagement, c'est une volonté, c'est une décision à prendre. Est-ce que je veux simplement écouter ce que le dimanche j'entends à l'église, ou bien aussi dans la semaine, dans mes journées, je veux aussi prendre du temps et me placer devant la parole et me nourrir de sa parole. Qu'elle est douce à mon palais ta parole, plus que le miel à ma bouche. Voilà ce que dit encore le psalmiste. Ou encore, vois, regarde, combien j'aime ta parole, Seigneur. Oui. Alors la question, est-ce que nous aimons cette parole? Est-ce que sa parole est vraiment douce à mon palais? Un autre psaume va dire, je l'aime beaucoup, et surtout le psaume par excellence qui décrit vraiment la parole, c'est le psaume 119. Je l'aime beaucoup, je l'aime infiniment, je l'aime profondément. Voilà les termes que va utiliser le psalmiste. De quel amour j'aime ta parole. J'en fais mes délices, elle fait la joie de mon cœur. Tout au long du jour, elle occupe mes pensées. Mieux vaut pour moi la parole de la bouche que 1000 objets d'or et d'argent, plus que leur fin, plus que leur pur ou leur affiné. Mieux vaut pour moi la parole de ta bouche. Si je mettais de l'or en face de moi, et puis la parole de Dieu, qu'est-ce que je choisirais? Je choisirais l'or ou je choisirais la parole de Dieu? Vaut mieux être pauvre, mais avoir la parole, que d'être riche et que d'être sans la parole de Dieu. Le psalmiste va ajouter, si tel n'était pas le cas, si ta parole n'était pas plus que 1000 objets d'or et d'argent, alors la misère aurait eu raison de moi. J'aurais péri dans mon affliction. Parce que sans la parole de Dieu, l'homme est perdu, l'homme est dans le désespoir. Vous voyez, regardez le monde qui nous entoure, le monde est désespéré. Nous sommes inquiets, nous disent les gens, on peut parler à droite et à gauche, nous sommes inquiets sur l'avenir de nos enfants. Pour nous, bon encore, ça ira, je pense qu'on ne connaîtra pas le pire des choses à venir. Mais nous sommes inquiets pour nos enfants. Mais quand nous avons la parole de Dieu, nous n'avons pas plus, nous ne sommes plus inquiets. Jésus nous dit, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets. Au contraire, quand vous verrez toutes ces choses arriver, redressez votre tête, réjouissez-vous. Sachez que l'heure de votre délivrance est proche. Incline mon cœur vers ta parole et non vers le gain. Mais la parole, la parole de Dieu qui est notre guide, qui est notre conseiller, la parole de Dieu qui nous permet de trancher ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est de nous, ce qui vient du monde, ce qui vient de Satan. Tout cela, c'est la parole de Dieu qui fait son œuvre en nous. Conduis-moi dans le sentier de ta parole, parce que ta parole est ma conseillère. Elle me rend sage. J'étais ignorant, j'étais insensé, je me laissais guider par moi-même, par mon instinct. Maintenant, c'est ta parole qui me conduit, c'est ta parole qui me montre le chemin, qui éclaire mes yeux, qui ouvre mon esprit, mon intelligence aux choses d'en haut, parce que les choses d'en bas, un jour, vont disparaître. Le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole ne disparaîtra jamais. Tout ce que nous voyons, tout ce que nos mains touchent aujourd'hui disparaîtront un jour. Mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne ta parole. Que je la garde, que je l'observe de tout mon cœur. Oui, parce que sa parole est une lumière sur notre sentier. Jésus, une des choses que Jésus va faire après sa résurrection, il va ouvrir l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent ou entendent les Écritures selon les traductions. Luc 24, 45, Jésus ouvre l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent ou qu'ils entendent les Écritures. Le souffle qui va animer les disciples, c'est le souffle de Dieu lui-même que Jésus transmet à ses disciples. Il passe de Jésus dans les disciples. Alors, lorsque nous aimons cette parole, lorsque nous sommes avides de cette parole, alors l'Esprit de Dieu, Dieu utilise sa parole pour nous transmettre son esprit. Un empereur romain qui s'appelle Trajan, il disait ceci à un rabbin juif. Je voudrais voir Dieu. Aucun mortel ne peut le regarder, répond celui-ci. Comme l'empereur insiste, le rabbin ajoute, essayez alors de commencer par regarder un de ses ambassadeurs. Et il engage l'empereur à observer le soleil par un ciel sans nuages. Alors Trajan dit, non, je ne peux pas. La lumière m'éblouit. Si vous ne pouvez contempler la gloire d'une de ses créations, comment supporteriez-vous la gloire de son Créateur qui est d'une magnificence incomparable et que le langage humain ne peut décrire? Je voudrais voir Dieu. Oui, on ne peut pas le voir de n'importe quelle manière, on ne peut pas s'approcher de Dieu dans n'importe quelle attitude, avec n'importe quel comportement, d'une manière négligée ou désinvolte ou sans respect ou en méprisant Dieu. Non, on s'approche de Dieu avec crainte, il nous est dit. Approchez-vous de Dieu avec crainte et même tremblement. Voilà. Zachée, lui, il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde, et Zachée est petit. Zachée grimpe sur un arbre, un sycomore. Jésus pose son regard sur lui et lui dit, « Descends vite, Zachée, je viens chez toi. » Cette rencontre, ce regard de Jésus vis-à-vis de Zachée, cet échange, la voix de Jésus, va changer et bouleverser sa vie. Auparavant, il ne connaissait pas Jésus. Lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous entendons sa voix, lorsque nous l'accueillons en nous, il ne peut faire qu'une chose, c'est bouleverser aussi, changer nos vies. Si nos vies n'ont pas été bouleversées, si nos vies n'ont pas été changées, c'est parce que nous n'avons pas rencontré Jésus d'une manière intime, profonde et durable. Dans notre enfance, nos relations avec nos parents, notre père, notre mère, peuvent avoir faussé l'image que nous pouvons nous faire de Dieu. C'est vrai que l'influence de nos parents peut dénaturer la relation que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu. La famille, donc l'école, les camarades, la religion, les sectes, tout cela ont pu abîmer, détériorer, voire souffler nos cœurs, souiller nos cœurs. Pourquoi la parole? Oui, semons, semons dans nos cœurs la parole de Dieu. Elle doit être là en abondance. Elle doit remplir tous les, comme toutes les parties de notre être. Par la lecture, par la méditation, remplissons-nous de sa parole. Laissons-nous remplir, être remplis par sa parole. Et alors, l'Esprit de Dieu dont on parlait tout à l'heure mettra dehors toutes ces influences du monde ou de Satan. C'est sa parole en nous qui va expulser de nos cœurs et de nos vies tout ce que nous avons pu accumuler depuis notre enfance. Nous avons été déformés, nous avons eu des raisonnements, nous avons eu tellement de choses qui se sont emmagasinées dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, qui nous souillent, qui nous perturbent, qui détruisent tout ce que Dieu aurait voulu mettre à la place. Pourquoi il y a des écoles chrétiennes aujourd'hui? C'est pour protéger les enfants, parce que dès que les enfants s'en vont dans les écoles du monde, quelle influence ils reçoivent! Combien même des enfants de pasteurs se détournent de Dieu parce qu'ils ont grandi dans un milieu où on leur inculque des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Jésus nous dit encore, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. Nous sommes remplis de mensonges, qui peut faire face aux mensonges du monde, si ce n'est la vérité de la parole de Dieu en nous? C'est elle, la vérité, la parole de la vérité, qui sera capable de corriger tous les mensonges qui nous entourent. Si cet ardent désir, si cette avidité pour sa parole n'est pas là, si nous n'avons pas soif de connaître sa parole et de nous en nourrir, tournons-nous vers Dieu. Réclamons à Dieu avec force. Donne-moi cette soif pour ta parole, Seigneur. Ouvre-moi les yeux sur ta parole. Je veux aussi, comme dit le psalmiste, je veux aussi être avide. Je veux avoir soif de ta parole. Et vous verrez que Dieu ne tardera pas à répondre à votre prière si elle est faite d'une manière sincère. La volonté de Dieu, c'est de nous nourrir. Il veut nous nourrir. Il veut remplir nos cœurs. Il veut remplir nos âmes de sa parole. Le prophète Osée, au chapitre 6 et au verset 3, nous va dire, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Mais comment connaître l'Éternel? Comment connaître Dieu? Comment connaître Jésus-Christ? Il n'y a qu'un livre qui nous a été donné, que Dieu nous a donné. C'est ce livre. C'est ce livre-là qui nous aidera à connaître, qui nous accompagnera dans notre recherche à connaître l'Éternel. Pourquoi voyons-nous autour de nous tant de faiblesses dans la foi? Pourquoi voyons-nous des soi-disant chrétiens, eh bien, ils sont chancelants. Un jour à l'église, un jour on ne vient pas à l'église, un jour on est là, on est... Parce que la parole de Dieu n'est pas là en profondeur dans les cœurs et dans les vies. Dans le cœur d'un chrétien, lorsque la parole est là, en profondeur et en abondance, jamais il ne se laissera détourner ni à droite ni à gauche. Il aura faim et soif de la communion fraternelle, il aura faim et soif de vivre, de partager la prière avec ses frères et sœurs. Trop de cœurs aujourd'hui dans le monde, pas simplement dans le monde, trop de cœurs dans le monde de l'Église, dans l'Église, sont vides de la parole, sont si peu, on se contente de miettes. Mais ce n'est pas des miettes que Dieu veut nous donner. C'est une abondance, c'est l'abondance de sa parole qu'il veut mettre en nous. Une religion, une secte s'offre à l'un de ceux qui étaient parmi nous, et puis nous ne les voyons plus. Ça y est, ils ont disparu. Ils se sont laissés avaler, attrapés par une secte, par une autre religion, par je ne sais qui ou quoi. Parce que la parole de Dieu n'était pas là en profondeur dans ce cœur, dans le cœur de cet homme ou de cette femme. Dieu dit dans le prophète Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Il faut que mes pensées soient enlevées pour mettre les pensées de Dieu à ma place. Souvent, ce sont mes pensées qui me gouvernent. Ce sont mes idées qui me gouvernent. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce ne sont pas les idées de Dieu qui me gouvernent. Ce sont mes idées. Et Dieu veut changer cela. Il veut mettre ses idées et ses pensées à la place de mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il veut me montrer ses voix, il veut me montrer sa voix et non pas les miennes. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plaies et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Sa parole est efficace. Si je me nourris avec habilité, avec sincérité, avec sérieux de sa parole, vous verrez que Dieu va agir au travers de sa parole. Dieu n'est pas insensible. S'il voit un cœur sincère qui le cherche dans sa parole, vous verrez le transformation, le changement que Dieu fera dans ce cœur et cette vie. Parce que Paul nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient ou naît de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Elle vient de la parole de Dieu. La foi naît du message que l'on entend, vient de la parole que nous lisons. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Il n'en a pas toujours été ainsi pour nous. Nous n'avons pas grandi, ni ils ni moi. Nous n'avons grandi avec cette parole. Il a fallu attendre 33 ans pour ma part. J'ai dû attendre 33 ans avant que cette parole ne se dévoile à moi. Il faut une révélation de Dieu pour nous donner l'enthousiasme pour sa parole. Vous voyez, c'est une révélation. Il faut que Dieu se révèle à nous. Quand le message de Dieu, le pur évangile, nous est annoncé, alors les yeux s'ouvrent. À moins que je ferme mon cœur, je ne veux pas entendre cette parole, je veux vivre ma vie, je veux faire ce que je veux. Mes pensées, je veux garder mes pensées, je ne veux pas celles de Dieu. Mais si on désire sincèrement à ce que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, alors il va agir. Mais quand nous avons entendu le message de l'Évangile, c'était en 1979, en septembre 1979, ici à Perpignan, quand nous avons entendu le message. Ce message a touché nos cœurs. Nous avons compris que nous étions des pécheurs, j'avais une religion. Quand un jeune homme à Milly-les-Bains m'a demandé « Es-tu chrétien ?»« Oui, je suis chrétien. »« Mais qui est Jésus-Christ pour toi ?» Je ne savais pas répondre. Moi qui ai passé une quinzaine d'années au séminaire ou dans ce milieu ecclésiastique, religieux, monastère, etc., je ne savais pas répondre qui est Jésus-Christ pour moi. Mais aujourd'hui, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que ce livre, c'est la parole de vie, c'est la parole de Dieu. Auparavant, je ne savais pas. Je savais qu'il y avait une Bible qui existait, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je ne savais pas. Oui, on lisait de temps en temps à la messe ou à l'église catholique, on lisait des passages, des extraits, mais elle ne bouleversait pas ma vie, elle ne changeait pas ma vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par sa parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Si nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, si nous voulons que Dieu bouleverse notre vie, si nous voulons que notre vie serve à quelque chose, alors ce n'est que par sa parole. Sans sa parole, Dieu ne fera rien, notre vie sera inutile, sera sans but, sans saveur, sans goût. Sa parole, toutes choses ont été faites par sa parole. Bien sûr, le ciel, l'univers, la terre, tout cela, mais aussi dans ma vie. Dieu, ce qu'il fait et ce qu'il fera, c'est par sa parole. Après avoir reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, la preuve que nous sommes, qu'un homme ou qu'une femme est né de nouveau, une preuve C'est lorsqu'il y a cet amour, cette avidité pour sa parole. Comme je vous ai dit, juste après sa résurrection, Jésus va souffler son esprit, il donne son esprit à ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Dès que le Seigneur nous a touchés, on se couchait assez tôt, 9h minuit, on se levait en pleine nuit, minuit, 1h du matin, on lisait pendant 2-3 heures la nuit. La plupart du temps, j'étais à genoux devant la parole de Dieu. Et là, à genoux, combien de fois j'ai pleuré en lisant la parole de Dieu. Si cette parole ne nous bouleverse pas, ne nous secoue pas, ne nous apporte pas des émotions, des pleurs, des larmes ou de la joie, c'est qu'il y a quelque chose, il n'y a pas cette relation encore entre Dieu et moi, entre Dieu. Parce que la parole, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous lie avec Dieu. Sans ce lien de la parole, qu'est-ce que je vais connaître Dieu? Oui, Dieu, il est là, Dieu est grand, oui, je crois en Dieu. Mais les démons aussi croient en Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu est pour moi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu est pour moi? Qu'est-ce que je suis pour lui? C'est sa parole qui va me le dire. Oui, dès notre nouvelle naissance, nous avons eu soif de connaître notre Dieu, de connaître Jésus-Christ. Ses pensées, son amour, ce qu'il a dit, ce que je suis pour lui, ce qu'il veut être pour moi, tout cela, il et moi, nous l'avons découvert au travers de sa parole. Et c'est à ce moment-là que, quelques semaines plus tard, quand nous sommes tombés sur Marc 10, 28, etc., quiconque quittera à cause de moi sa maison, ses frères et sœurs, ses terres, recevra au centuple des frères et sœurs, etc. Là, nous nous sommes confrontés avec ce quiconque quittera à cause de moi. C'est là que nous avons dit, oui Seigneur, qui est ce quiconque? C'est Pierre, c'est l'autre, c'est un pape, c'est un évêque, c'est un prêtre, ou bien c'est moi ce quiconque? Bien, oui Seigneur, nous voici. Nous irons là où tu voudras, nous partirons quand tu voudras, nous irons là où tu veux que nous allions, nous irons. Parce que toutes choses ont été faites par sa parole. Cet appel à le servir en Afrique est venu de sa parole. En lisant les évangiles, en regardant ce que Jésus a fait, dit et ressenti, ses émotions, sa compassion, on peut voir Dieu. Kimberly, si je pouvais voir, elle va nous accompagner. Pendant que je vais vous lire, vous connaissez ce cantique, « Si je pouvais voir l'heure la plus noire ». On ne va pas le chanter, je vais juste simplement résumer. « Si je pouvais voir l'heure la plus noire, Jésus marchant vers Golgotha, jugé sans justice, conduit au supplice, cloué sur une croix, si je pouvais voir l'agonie du soir où Jésus portait mes péchés, tout le mal en moi, cet énorme poids sur son front innocent, si je pouvais voir le sol trembler quand le Seigneur poussa son cri, le voile se déchirer, les tombeaux s'ouvrir, maintenant, je vois écrit sous la croix mon propre nom lié à Christ. Maintenant je vois, la mort est vaincue, la vie m'est rendue par son amour sublime. Oui, c'est la force de la croix. Le Fils de Dieu est mort pour moi. J'aurais aimé que Kimberly m'accompagne pour le deuxième, mais je crois qu'elle ne connaît pas. J'ai vu tes mains guérir tant de malades, tu ne connais pas celui-là. Ah oui, c'est la partition qui manque. Voilà. Ah, si je pouvais voir, on ne voyait pas pendant 33 ans de ma vie. Je ne pouvais même pas dire si je pouvais voir parce que je ne savais pas que je pouvais voir cela. Mais l'heure la plus noire, ce jour-là où j'ai reçu la révélation de Dieu, alors j'ai compris. J'ai vu la plus noire, l'heure la plus noire. J'ai vu Jésus marchant vers Golgotha. Il faut méditer. Lisez, si vous voulez que quelque chose fasse, que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, reprenez les évangiles où il est parlé de la crucifixion de Jésus. Parce que tout part de là. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans reconnaître, sans voir Jésus-Christ mort, crucifié, souffrant par amour pour moi. Il n'y a pas de vie nouvelle. Il faut voir Jésus dans toutes ses souffrances. Il faut voir Jésus marchant vers Golgotha, jugé sans justice, conduit au supplice, cloué sur une croix. Il faut voir cette agonie du soir où Jésus a porté mes péchés, tout le mal à moi. C'est vrai, ce jour-là où Dieu m'a accordé cette révélation, au moment où la prédication de l'Évangile était donnée, j'ai vu comme un tableau noir qui était là, devant mes yeux. Et au fur et à mesure que le message était donné, ce tableau était en train de se couvrir de mes péchés et il n'y avait plus de place, même sur ce tableau, tellement ce tableau était couvert de mes péchés. Je voyais. Mais au même moment où je voyais ce tableau, quelques minutes après, c'est comme si une main était venue et commençait à effacer ces péchés. Parce que j'étais en train de saisir, de recevoir, d'accueillir l'amour de Jésus-Christ dans mon cœur, dans mon âme. Oui, maintenant, je puis dire, j'ai vu tes mains guérir tant de malades. J'ai vu tes mains rompre le pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes. Voilà ce que nous déclare l'Évangile, la Bible. J'ai vu tes pieds saigner de partout. J'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. J'ai vu tes yeux pleins de pleurs, pleins de larmes. Tes yeux au regard d'amour pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. J'ai vu ton corps meurtri de coups, ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes. Je reconnais quel amour, quelle grâce. Nous sommes pardonnés à la croix. Il n'y a pas de pardon de nos péchés sans la croix. Il nous faut voir Jésus, il faut voir ses souffrances et comprendre. Et à ce moment-là, eh bien nous réalisons, il nous fera saisir par son esprit que là, à la croix, nous sommes pardonnés. Je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, Dieu fait une œuvre, Dieu agit dans ce monde. Le Moyen-Orient vit actuellement un phénomène de grande ampleur. Les récits exceptionnels de musulmans rencontrant le Christ se multiplient. Une lumière s'est adressée à moi par ces mots. « Viens à moi, je te sauverai et je viendrai à ton secours. » Puis de rajouter, « Si les gens, ça se passe en Iran, si les gens découvraient ma foi, je serais rejeté. Si le gouvernement me découvrait, je serais exécuté ou mis à mort par pendaison dans la rue. » Il faut savoir qu'il y a des frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont mis à mort, qui meurent, qui sont décapités, brûlés vifs. Même aujourd'hui, brûlés vifs, aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont rencontré la croix de Golgotha, parce qu'ils ont vu Jésus-Christ crucifié, mort à la croix de Golgotha. Ils sont prêts, qu'importe. Non, renie ton Jésus et tu pourras vivre. Embrasse la foi musulmane et tu pourras vivre. Non. Je préfère mourir. Jean va dire ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Voilà, nous entendons la parole et nous voyons Jésus. Nous entendons sa parole, nous méditons sa parole, nous recevons sa parole Et Dieu nous fait ce cadeau de voir Jésus dans notre cœur, dans notre esprit. Il ne va pas nous donner de le voir comme ces ex-musulmans ont vu Jésus. Personne tout en blanc. Dieu aujourd'hui apparaît à des hommes et à des femmes de par le monde. Là où il y a la persécution, Dieu se révèle. Mais nous pouvons le voir dans notre être intérieur. Ce que nous avons contemplé, quand nous entendons la parole, quand nous voyons Jésus, nous n'avons plus qu'une attitude à avoir, c'est de nous prosterner devant lui. Adorons-le de tout notre cœur. Manifestons-lui notre amour et engageons-nous à le suivre et à le servir. Entendre, voir, contempler, toucher. Jean dit qu'il a vu et contemplé la personne de Jésus. Cette vision a marqué sa vie. Ses mains ont touché la parole de vie, le Seigneur. C'est du concret, c'est du solide, c'est de l'inoubliable. Quand il y a 33, j'avais 33 ans donc que le Seigneur m'a touché en 79, vous voyez, bientôt ça fera 40 ans, et je regrette jamais, je regretterai jamais de ma vie, vous voyez, d'avoir donné ma vie, de lui avoir donné ma vie, et de quelle grâce le Seigneur nous a fait, parce que ensemble, le même jour, le même instant, Dieu nous a fait la grâce de nous ouvrir les yeux vis-à-vis du salut, vis-à-vis du message de l'Évangile. Ensemble, avec Ils, nous avons reçu le Seigneur à ce moment-là. Et oui, quelle grâce! Parce que, hélas, on sait qu'il y a dans des familles, l'un est croyant, l'autre ne l'est pas. Nous pouvons prier vraiment pour les couples où cela n'est pas le cas. Parce que quelle souffrance, quelle force pour ceux qui sont unis, pour ceux qui ont reçu la même grâce en même temps, pour les uns c'est un an après, quelques mois après, mais pour les autres cela dure des années. Mais je crois que parfois c'est ce qu'ils ont vécu vis-à-vis de sa maman. Combien de fois ils ont pleuré parce qu'elle ne voyait pas sa maman sauvée. Elle disait, Seigneur, non, nous avons tout quitté, nous sommes partis au loin, nous sommes en Afrique pour nous occuper des âmes des autres. Et tu vas laisser périr ma maman. Ils ont, en quelque sorte, lancé un défi à Dieu, mais surtout elle a versé des larmes, elle a pleuré. Vous savez que les larmes, les pleurs, sont d'un grand prix et d'un grand poids aux yeux de Dieu. Si nous pleurons pour les nôtres, alors peut-être que Dieu fera grâce. Et là, il a fait la grâce, puisqu'à 84 ans, la maman de Hills a reçu le Seigneur comme son sauveur, et 3 ans après, elle est partie dans la gloire auprès de lui. Une autre chose vis-à-vis de la parole, c'est de mémoriser sa parole. Vous savez, dans certains pays où les chrétiens sont persécutés, ces chrétiens qui ont mémorisé sa parole ont écrit les versets, tous qui se souvenaient, ils l'ont écrit sur des feuilles de papier. Les uns, les autres, toi tu te souviens de ça, toi tu te souviens. Et ils ont fait comme un condensé, ils ont mis sur papier vraiment tout ce que les uns et les autres se souvenaient. Et c'est la seule chose, parce que la Bible était interdite. La Bible est interdite dans ces pays. Donc c'est la seule, combien ils ont apprécié, combien ils ont vu que c'était une véritable nourriture pour leur âme. Même quelques versets étaient une véritable nourriture. Je me souviens de ce que disait un frère dans un institut biblique. Il a dit, le jour où j'ai commencé à mémoriser sa parole, j'ai vécu quelque chose de particulier avec Dieu. J'ai voulu aussi expérimenter. Et pendant plusieurs mois, j'ai appris les 10 premier chapitre de l'évangile de Jean. Les 10 premiers chapitres, je pouvais vous les réciter par cœur. Quand on commence à mémoriser sa parole, ça nous met en constante présence du Seigneur. Je le sentais à côté de moi. Il y a quelque chose qui se passe. voyez, quand on commence à mémoriser sa parole, quelque chose de la présence de Dieu, de la présence de Jésus se passe entre... Il y a quelque chose qui n'est pas d'ici, qui n'est pas, comment, exprimable, qui est indicible. Mais je vous encourage, je vous invite. Pourtant, j'avais 40 ans, je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, quand j'ai commencé à mémoriser, mais ces paroles me sont restées. Oui. Donc, je vous encourage, mémorisez sa parole. Parce que quand nous sommes face à un adversaire, face à ceux qui contestent notre foi, vis-à-vis de ceux, vous êtes à court, vous êtes à manque d'arguments. Vous voyez, vous avez besoin de dire quelque chose. Mais qu'est-ce qui va pouvoir convaincre l'autre? Ce sont vos paroles? Ou bien c'est la parole de Dieu qui va pouvoir convaincre? La parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Elle est agissante. Ce matin, sans le savoir, j'ouvre la radio France Culture parce que j'aime bien, à 8h30, j'aime bien écouter le culte protestant. Il y a un culte protestant. Et ce matin, qu'est-ce que c'était sur culte? C'était la parole. Sur la parole. J'ai dit, tiens Seigneur, c'est un hasard. Je veux apporter un message sur la parole, puis j'entends sur la radio, sur la parole qui interroge, la parole qui questionne, la parole qui est agissante, la parole qui est vivante. C'est une dame de Marseille, d'une église de Marseille, qui donnait le message. Je ne sais pas trop pour les femmes qui enseignent dans l'église. Bon, je pense que David pourrait mieux développer ce sujet que moi. Mais voilà, ce matin, c'était une femme qui donner un court message, bon, c'était 20 minutes. Si c'est une exhortation, si c'est une femme peut intervenir, mais l'enseignement vis-à-vis des hommes, là, il faut écouter ce que la Bible nous dit. En tout cas, voilà, la parole est agissante, la parole est nourrissante. Voilà ce que je vous ai entendu, ce que j'ai entendu ce matin. Donc, combien dans les siècles ont été brûlés vifs sur des bûchers, ou ont été torturés ou emprisonnés de nombreuses années parce qu'ils aimaient cette parole, parce qu'ils proclamaient cette parole, parce qu'ils avaient été vus dans leur voiture, on a vu une Bible dans leur voiture, 2 ans de prison. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays libre. Nous sommes libres aujourd'hui d'avoir la Bible, personne ne nous dira quelque chose. Mais cette Bible, on la laisse dans un placard, on la laisse sur une étagère, elle ne fait rien, on n'est pas bouleversé, elle ne nous dit rien. On n'en a pas envie, on ne se nourrit pas de sa parole. Alors que des frères et sœurs sont prêts à être persécutés, torturés. Il y a en particulier Jean Hus, Jan Hus, qui a été... brûlé vif sur un bûcher. Oui, Père, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, aide-nous à la, pas simplement la serrer contre nos cœurs d'une manière physique, mais que les paroles qui sont dans ce livre, nous puissions nous en nourrir, nous puissions nous en délecter, nous puissions nous en réjouir, nous puissions vraiment la méditer, nous soyons avides, Seigneur, mais cet ardent désir de nous nourrir de ta parole, Seigneur. Seigneur Père, je te demande pour chacun de mes frères et sœurs ici, je te demande, Père, qu'aucun ne se prive des richesses de ta parole, des profondeurs de ta parole, de la puissance de ta parole, Seigneur. Nourris et surtout donne cette faim et cette soif d'être nourri par ta parole. Merci Seigneur, bénis ta parole et aide-nous à vraiment à la garder, à lui obéir Seigneur. Merci à toi seul la gloire Seigneur, et reviens bientôt Seigneur, parce que tu montreras à la face du monde que ce que tu as dit c'est la vérité. Le ciel et la terre vont disparaître, mais ta parole ne disparaîtra jamais. Amen.